Père Mathieu Doucher, la compassion, c'est donc souffrir avec. Souffrir avec celui qui souffre, ça va jusqu'où ?
Eh bien, ça peut aller jusqu'au bout. Ça peut aller jusqu'au plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. La compassion va jusque-là et l'exigence de la compassion va jusque-là. C'est le mystère des vies données de manière radicale. Lorsqu'on a des personnes qui nous montrent des exemples héroïques à donner leur vie, donc la compassion peut aller jusqu'au bout. Donc elle peut aller jusqu'à ces extrêmes-là qui sont le plus grand amour, donner sa vie pour ce qu'on aime. En revanche, il y a une compassion toute simple de tous les jours, et là c'est une exigence évangélique, qui est d'être capable de porter la souffrance effectivement avec son prochain. Et il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, il n'y a pas besoin de partir à Manille pour vivre la compassion. Et j'ai envie de dire, d'une certaine façon, la souffrance peut être plus insidieuse ici dans nos sociétés, parce qu'on oublie la personne âgée seule, qui personne ne visite. Et la visiter, et parfois passer du temps à écouter une personne âgée, et bien c'est une vraie forme de compassion, de porter cette souffrance avec elle, cette solitude avec elle. J'ai toujours été très très marqué par la Sainte Thérèse de Calcutta, Mère Teresa, au début de sa vie missionnaire. Lorsqu'elle témoigne, elle parle beaucoup des bidonvilles de Calcutta, de cette misère des bidonvilles de Calcutta ou des rues de Calcutta, de ces mourants dans les rues de Calcutta. Et vous aurez remarqué qu'à la fin de sa vie, elle parle beaucoup plus de la misère, de la solitude de nos villes, de New York, de Paris. Et finalement, elle met le doigt sur une souffrance qui est peut-être plus cachée, moins évidente.
Moins visible.
Moins visible, mais à laquelle on doit répondre. Donc, moi, je vous donne des exemples de Manille, des bidonvilles de la rue. Et finalement, j'ai ce privilège de travailler, d'être le témoin tous les jours d'exemples extraordinaires donnés par les plus pauvres, bon, très bien. Mais il n'y a pas besoin de partir au bout du monde. Ouvrons les yeux, regardons sur le pas de notre porte. Peut-être que la personne qui est juste en face sur notre palier, elle a besoin de notre aide, notre écoute. Ou une simple personne qui mendie à la sortie de notre église, elle n'a peut-être pas besoin des 2 euros qu'elle demande, mais elle a certainement besoin d'un regard ou d'une parole. Ou voilà, d'arriver à casser cette indifférence. Mais si on arrivait à casser cette indifférence, cette espèce d'égocentrisme qui reste dans nos sociétés, mais on donne une réponse au mal qui est fulgurante, fulgurante.
La compassion et l'amour, c'est la même chose ?
C'est pas la même chose, mais la compassion est une forme d'amour, comme le pardon est une forme d'amour qui est très très élevée. Mais c'est une forme d'amour. L'amour, c'est la nature même de Dieu, et elle prend toutes ces formes-là. Mais encore une fois, la compassion a une dimension très très mystérieuse parce qu'elle ancre d'une certaine façon notre amour donné dans la souffrance sans la faire disparaître. Quand on dit compatir, on porte cette souffrance avec l'autre, on porte cette souffrance de l'autre, on ne la fait pas disparaître. Eh bien, on est exactement dans la réponse au mal.
C'est la transfiguration dont vous parliez ?
Cette transfiguration dont on parlait, c'est-à-dire finalement arrêter de s'obséder avec ce « pourquoi le mal ?», mais se focaliser sur « comment répondre au mal ?». Et ça, c'est notre exigence ici sur Terre. La réponse, on l'aura dans l'au-delà, l'explication, on l'aura dans l'au-delà. La réponse, on la donne ici sur Terre.
Pourquoi est-ce que vous insistez autant, Père Mathieu Doucher, sur la question du silence dans votre livre ?
Je me suis aperçu d'une chose assez fondamentale, je pense, en parlant de compassion, c'est qu'il y a beaucoup de choses devant lesquelles les mots sont impuissants. Mais une présence silencieuse peut donner une réponse d'amour qui est d'une puissance phénoménale. Des amoureux le comprendront très bien d'ailleurs, parce que des amoureux ou un couple qui s'aime depuis des années sait pertinemment que, bien souvent, parfois il faut des mots évidemment, et il faut être capable de l'exprimer par des mots, mais parfois la simple présence de l'être aimé à ses côtés sans un mot suffit, donne une sorte de sensation de bien-être extraordinaire parce que l'être aimé est là, simplement, sans un mot. Les personnes malades peuvent témoigner de ça, d'une présence parfois silencieuse au pied du lit qui leur a donné la force de se battre contre la maladie. Un geste tout simple, silencieux, qui montre qu'on est attentionné, qu'on est là simplement, cette présence, eh bien, elle casse l'ennemi le plus redoutable de l'amour, qui n'est pas la haine, mais qui est l'indifférence. Cette simple présence. Le silence peut être merveilleux pour ça. Être là. On n'est pas là pour venir expliquer le mal ou la souffrance à la personne, mais quelle horreur, quelqu'un qui est en train de souffrir, d'entendre, vous savez, comme Job, les gens qui viennent lui expliquer pourquoi il lui arrive ça, mais c'est insupportable. Mais non, mais ne venez pas donner des explications au mal, soyez là pour la personne.
Mais le silence peut aussi être une forme d'indifférence.
Ah bah évidemment, on peut trouver une forme silencieuse qui est une forme du mal aussi, évidemment. Ce soit, soit l'indifférence, soit le dédain, le mépris qui parfois est effectivement silencieux.
Là, souvent, vous parlez d'une parole, présence silencieuse.
Là, je parle d'une présence silencieuse. Je parle d'un silence d'amour, évidemment. C'est-à-dire cette présence, ce silence qui reste un silence compatissant. Je suis là. Vous savez, quand... Quand vous êtes présent auprès d'un malade, vous ne dites pas un mot, mais vous prenez de votre temps. Mais ce temps, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une partie de votre vie que vous donnez gratuitement. Ce temps donné à la personne malade juste par votre présence, eh bien, vous ne pourrez jamais le récupérer. Les 30 minutes ou l'heure que vous avez passé auprès d'un malade, eh bien vous ne pourrez jamais le récupérer. Vous êtes là auprès. Eh bien, vous donnez cet amour et c'est un amour gratuit. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau ?
Alors pour en revenir au silence, est-ce que ça n'est pas aussi quelque chose de nécessaire quand on est engagé dans le type de combat dans lequel vous vous engagez pour revenir à la source régulièrement et pour ne pas se perdre peut-être aussi dans une forme d'agitation ou ce qui pourrait devenir une forme d'agitation.
Ou d'activisme.
D'activisme.
Alors, je répondrai peut-être sur deux aspects. Le premier, c'est que le silence peut être justement le reflet de ce déclic que l'on a de sortir de l'obsession rationnelle, à expliquer par des mots le mal et à accepter d'entrer dans une réponse au mal. Mais ça signifie que, effectivement, il ne faut pas tomber dans l'activisme. Comme je l'ai dit dans un entretien précédent, c'est le bon Dieu qui vient donner cette petite étincelle qui est une étincelle de résurrection. Donc la prière est importante. Il ne faut pas tomber dans l'activisme. Pas tomber dans l'excès inverse aussi. C'est-à-dire... le bon Dieu attend aussi qu'on pose des actes. Les lettres de Saint Jacques sont plus que claires. Un amour sans acte, non, c'est pas possible. C'est
un amour mort. On peut pas être que dans la spiritualité là.
On peut pas être que dans une espèce de concept spiritueux, je dirais, qui est de justifier notre inactivité. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler auprès des enfants des bidonvilles et de la rue, j'ai une dame de la paroisse sur laquelle je suis à Manille qui est assez aisée et qui est venue me voir en me disant « Alors moi, mon père, je vais vous aider, je vais vous donner des dons et pour la fondation, ce sera bien, mais surtout ne demandez pas d'aller sur la décharge parce que je suis bien incapable de rencontrer ces personnes-là, j'en suis incapable, mais je vais vous aider. » Et ma première réponse spontanée à ce moment-là, ça a été de lui dire « Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Smoky Mountain. Et votre aide sera précieuse. Sur la décharge, pardon, la décharge publique de Manille. » Eh bien, quelques temps après, je l'ai regretté, ma phrase. Non pas qu'elle doive aller forcément sur la décharge publique, mais il faut aller à la rencontre des gens. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Il ne faut pas l'éviter. C'est évangélique. On ne peut pas se cacher d'une certaine façon derrière... une aide qui soit simplement financière ou simplement extérieure ou surtout simplement distante. C'est pas possible. Oui, elle n'était pas censée aller sur la décharge. Tout le monde n'a pas une vocation à aller forcément sur le terrain. En revanche, on est tous appelés à cette rencontre-là.
Pourquoi c'est si important, cette rencontre ?
Parce que justement, cette compassion, cet amour, ce pardon, cette joie, ces réponses que l'on donne au mal... elles ne peuvent passer que par la rencontre. Or, vous remarquerez que notre société, eh bien, elle nous encourage exactement à l'inverse. Toute la société de consommation, elle nous invite à notre propre plaisir, nos propres choses qu'on s'achète. Et puis, quand vous êtes dans le métro, je prends le métro actuellement à Paris, très bien. Non, mais vous avez une personne sur deux qui a un casque sur la tête. Et ceux qui n'ont pas un casque sur la tête, ils sont en train de lire un livre. Mais il ne faut surtout pas parler à la personne à côté. Et d'ailleurs, si vous croisez le regard d'une personne, on a l'impression que c'est tout juste s'il n'y a pas une forme d'agression. C'est exactement l'inverse de ce que veut le bon Dieu. Le bon Dieu, il rêverait d'un métro où tout le monde se parle, où tout le monde se découvre, où tout le monde se rencontre. On en est loin, hein. Mais peut-être que chacun peut devenir cet instrument-là.
Donc la rencontre et puis un équilibre à trouver entre l'intériorité, le silence, la prière et les actes à poser, l'engagement concret.
Ce sont les deux choses qui sont inévitables, hein, comme nos deux doigts, nos deux mains. Voilà, on a deux mains, la main droite et la main gauche. Eh bien, on a une partie qui doit être une partie de prière. Il est impossible d'agir sans avoir le bon Dieu avec nous. Ce n'est pas possible. Et sans trouver la source de notre amour et de notre force dans cette prière. C'est impossible. On va forcément s'assécher un jour ou l'autre. Mais cet amour que l'on vient puiser dans la prière, il doit impérativement prendre corps d'une certaine façon dans les actes que l'on va poser. C'est-à-dire se donner un gros coup de pied au derrière et se bouger pour aller à la rencontre et donner cet amour.
On conclut demain. Merci beaucoup, Père Mathieu Dauchez.